Les enfants de Léa.
Rachel, c'est plutôt Israël par rapport à Galoun, par Joseph. Léa, c'est plutôt elle en plutôt de Yehuda, qui est Eretz Israël en Eretz,
C'est exact.
en
C'est exact. Pourquoi tu dis plutôt? C'est-à-dire plutôt.
Israël.
C'est exact. J'ai des difficultés à parler, ça va s'arranger tout à l'heure. Alors en attendant, quelqu'un va lire ce texte. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer comment on apprend qu'il y a cette différence-là à travers Rachel et à travers Léa. Nous l'avons vu la semaine dernière d'ailleurs. Entre Rachel et Léa, laquelle des deux Jacob devait épouser normalement? Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu as dit Léa? Rachel et Esav qui devait épouser Léa. Et qu'est-ce qui est arrivé?
Comme Jacob a pris la bracha de Esav.
C'est pas la bracha.
Donc la femme qui revenait.
C'est lui qui parle. Habituez-vous à ne pas vous mélanger. Effectivement, il y a eu un échange de privilèges entre Ésaü et Jacob, mais dans ce cas, c'est pas la bracha. C'est quoi? C'est-à-dire, l'aîné, par la nature, qui était Ésaü, était destiné à Léa, et l'inverse, Léa était destinée à Ésaü, et Rachel était destinée à Jacob. Et puisque Jacob a pris aussi le rôle d'Ésaü, alors Laban a imposé Léa à Jacob. Vous vous rappelez de cela? Bon. Alors il en résulte pour notre problème, quelque chose que je n'ai pas encore entendu, mais qui est un problème extrêmement important. Il en résulte dans l'héritage de qui était Eretz Israël?
Ça.
Comment tu l'apprends? Mais pas plus fort, c'est pas tout.
Parce qu'il a comme des. J'ai hérité de la Torah parce qu'il était le troisième.
Ah, ça tient bon. Alors, je vais inverser la question. Comment on apprend que la fonction de Rachel, c'est la galoute? Comment on l'apprend? J'espère que vous avez lu tous ces textes. Par non? Or, je n'ai pas parlé de Yosef, j'ai parlé de Rachel. Oui, parle plus fort et explique mieux par rapport à la question.
Elle est entourée sur le même point, mais pas dans la valeur de la valeur de la Marpella. Et elle est là pour les distraire quand ils sont sur le chemin.
C'est exact, mais c'est une conséquence de ce que je demande. Ah, mélangez pas. Ce que je demande, c'est comment on apprend que Rachel est la vocation de la Galoute, alors que Léa est la vocation de l'Eretz Israël. Et il en résulte que la descendance de Jacob, par l'une ou par l'autre, va avoir une histoire différente. Alors comment on apprend cela? Ça se relie à ce que tu as dit, mais ce que tu as dit, c'est la conséquence de ça. Tu as cité un enseignement que maintenant que Rachel est enterrée sur le chemin de l'exil, elle prie pour sa descendance qui est en exil. Et à ce moment-là, lorsqu'Israël est en exil, peu importe si c'est les descendants de Rachel ou de Léa, c'est Israël. Mais la question que j'ai posée est un peu différente. Bon, je vais vous rappeler, c'est que Rachel est morte au moment où Jacob arrive en Eretz Israël. Pourquoi? Ça veut dire que le sens de cela, indépendamment de l'événement, c'est que lorsque la matrice d'engendrement d'Israël pour la relation avec les Goïm, la Galoute, a fini son rôle, elle disparaît. Lorsque la famille de Jacob entre en Eretz Israël, c'est Rachel qui meurt à ce moment-là. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas étudié dans ce cours en détail, vous devriez le savoir. Quelle est la raison pour laquelle Rachel est morte lorsque Jacob arrive en Eretz Israël?
Elle n'avait plus de rôle à jouer.
se ferme.
Non, ça c'est ma question.
Oui, mais...
Vous mélangez toujours la question que je pose et la réponse qu'il faut donner. Alors vous répétez la question sous une autre forme. C'est la question que je pose. Pourquoi, comme tu dis et comme elle dit, pourquoi le rôle de Rachel s'achève lorsque Jacob entre en Eretz Israël? Bon, je vais prendre les choses de plus haut. Léa et Rachel étaient deux sœurs. Et... Or, j'arrive. D'après la Torah, est-ce que c'est permis d'épouser deux sœurs?
Non.
Alors réfléchissez à ça et vous trouverez la réponse. Je reviens tout de suite. Je ne l'avais pas donné à lire en particulier, mais je pense que vous l'avez lu par vous-même. Lorsque Jacob a béni ses enfants, on a dans la paracha de la fin du livre de Bereshit, il va d'abord bénir les enfants de Joseph. Vous savez que normalement Joseph faisait partie des 12 tribus d'Israël, mais lorsque Jacob va bénir ses enfants, il va d'abord diviser la descendance de Joseph en deux tribus qui sont Ephraim et Menaché. Et il va expliquer qu'il adoptera, Jacob adoptera Ephraim et Menaché qui sont nés en Égypte au même titre que les autres enfants de Jacob, les autres tribus. Et donc normalement, on aurait 13 tribus et pas 12. C'est-à-dire Joseph disparaît, se retire, et à la place, il y en a deux, Ephraim et Menaché. Ça fait donc 13 tribus. Plus tard, après la sortie d'Égypte, après la faute d'Ivodor, la tribu de Lévi est séparée des 12 tribus. Il y a donc 12 plus la tribu de Lévi. C'est clair? Bon. Peut-être que je vais revenir sur ce thème. Pourquoi il fallait arriver à trouver 13 tribus et pas seulement 12? Je ne sais pas si on a étudié ça avec vous. On va rappeler. On a posé la question. Et, alors j'y reviendrai. Mais à ce moment-là, Jacob rappelle la mort de Rachel à Joseph et dit un verset, nous allons chercher tout à l'heure d'ailleurs dans le texte, il dit « Meta alai Rachel ». Littéralement, ça veut dire « Meta alai Rachel »,« Rachel est morte sur moi ». C'est l'expression qu'on emploie en hébreu, surtout en hébreu biblique, pour dire que quand on a perdu un parent, que ce parent est mort sur. Quand vous apprendrez suffisamment l'hébreu, vous verrez que c'est l'expression qu'on emploie en hébreu. On dit pour dire avoir perdu quelqu'un. Alors le pshat, c'est que Meta alai Rachel, Rachel m'est morte, si vous voulez, est morte pour moi. Mais le Midrash explique, elle est morte à cause de moi. Meta alai Rachel. Vous entendez en hébreu? Alai est pris dans le Midrash dans le sens de « à cause de moi ». À cause de quoi? À cause du fait que j'ai épousé deux sœurs. Alors ma question, puisqu'elle est double, on pourrait se dire « il n'y a pas de problème, la Torah n'était pas encore révélée ». Par conséquent, puisque la Torah n'avait pas encore force de loi, on ne voit pas pourquoi il y aurait une faute. Mais en fait, je réponds moi-même, en fait, nous avons un enseignement que les patriarches ont observé la Torah déjà à leur manière de leur temps. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. Avot, Shamro et Tamizvot. Vous avez appris cela? Je vais quand même expliquer un peu. Il y a une différence de nature, de la manière dont les patriarches, c'est-à-dire les Avot, Abraham, Isaac et Jacob, ont vécu d'après la Torah et la manière dont Israël doit vivre d'après la Torah après la révélation du Sinaï. Les patriarches ont vécu la Torah à l'échelle individuelle. Chacun à travers sa mida, chacun des patriarches à travers sa mida, c'est-à-dire sa valeur morale propre. Abraham a vécu toute la Torah à travers la mida de Chesed, Yitzhak à travers la mida de Din, et Yaakov à travers la mida de Emet. Mais ils l'ont vécu comme leur manière de vivre, pas dans le sens de répondre à une obligation. D'obéir à un commandement. C'est leur mida, c'est leur manière d'être. Ça veut dire, les patriarches vivaient d'après leur Torah, qui est l'âme de l'identité d'Israël. Eux incarnaient cette neshama-là, et ils vivaient d'après la Torah sans que ce soit dans la perspective d'une mitzvah à laquelle on obéit. En hébreu, ça s'appelle une mida, une manière d'être, une qualité. Vous comprenez la différence entre Mida et Mitzvah. Alors je vais vous expliquer le verset qui l'indique très clairement. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Kilat et Yaakov. Je traduis littéralement la Torah que Moïse nous a prescrit comme commandement, Tziva, c'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. C'est-à-dire ce que Moïse a, si vous voulez, comment dire ça en français, ce qui apparaît avec Moïse pour l'assemblée d'Israël comme collectivité, c'est que la Torah d'Israël prend force de loi. Pour les Avot, elle était vécue comme une manière d'être, pas avec la kavana que j'obéis à un commandement, parce que Abraham est tout Israël en une personne, Isaac est tout Israël en une personne, Jacob est tout Israël en une personne. En fait, par état, Abraham c'est le commencement, Isaac la deuxième étape, et c'est Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Mais en tant qu'ils sont les avots de l'identité d'Israël qui a reçu la Torah comme loi, c'est leur manière d'être, dont l'Assemblée d'Israël reçoit l'héritage. Ça veut dire, l'Assemblée d'Israël comme collectivité a par privilège de naissance un héritage d'identité qui est la manière d'être des patriarches et qui est la Torah sous forme de Mida. Moïse va la transformer en Mitzvah pour tout Israël. Je n'ai pas fini d'expliquer, mais déjà retenez le sens du mot Torah Tziva Lanu Moshe dans le verset. Moshe Tziva et la Torah. La Torah qui était la manière d'être des patriarches, Moïse l'a ordonnée aux enfants d'Israël comme loi. Vous avez compris le sens de Tziva dans le verset. Okay? Il y a un chidouche, c'est le Tzivui, la Mitzvah. Et la question du verset, c'est pourquoi on dit dans ce verset l'héritage de l'assemblée de Jacob. Ça, on a déjà étudié de différentes manières. La Torah devait être révélée surtout à Jacob, parce que la Torah d'Abraham est naturelle à Abraham, celle d'Isaac est naturelle à Isaac, mais la Torah de Jacob, qui est l'unité des deux, n'est pas à l'échelle humaine, elle doit être révélée. C'est pourquoi il y a un deuxième chidouche dans le verset, Morasha, Kilat, Yaakov. La camarade demande, Yaakov et pas Abraham et Yitzhak, et elle répond, Abraham, sa Torah, c'est la Torah Tachesed. Yitzhak, sa Torah, c'est la Torah Tadin. Mais Yaakov, sa Torah, c'est la Torah Tahemet. Celle-là ne peut pas être atteinte par l'homme. Il faut qu'elle soit révélée. C'est bien clair? Il y a un niveau d'identité de Jacob qui est supérieur à Abraham et Isaac. Abraham et Isaac sont les deux vertus nécessaires pour que Jacob apparaisse. Mais la loi de du Chesed, c'est pas nécessaire qu'elle soit révélée. Si un homme a cette mida de chesed, il a la Torah de chesed. De la même manière pour Dim. Je dirais encore en français d'une autre manière pour que ce soit bien clair. Ça veut dire pourquoi il est nécessaire d'apprendre que la Torah que Moïse a révélée est l'héritage de l'assemblée de Jacob. La question que je reprends, c'est et l'assemblée d'Abraham et l'assemblée d'Isaac. La réponse, c'est que Jacob, c'est le juste de l'unité des deux valeurs, celle d'Abraham et d'Isaac. Alors la Torah de la valeur d'Abraham, Abraham la connaît par sa nature. Et effectivement, dans l'histoire des civilisations, si vous avez une civilisation qui base tout son idéal sur la vertu de charité, elle n'a pas besoin d'une loi révélée. Les hommes charitables savent ce qu'est la charité. Et c'est un homme charitable qui va fonder une société de charité. De la même manière pour la justice. Un homme de justice sait ce que c'est que la justice. Le marxisme qui recherchait la justice sociale comme idéal n'a pas besoin d'une révélation pour établir la loi de sociologie de la justice sociale. De la même manière, le christianisme qui recherche l'idéal de la charité n'a pas besoin d'une révélation qu'est-ce que c'est la charité. N'importe quel fondateur d'ordre chrétien se fonde un ordre de la charité. Et vous avez les franciscains, les jésuites, les dominicains, si vous voulez. Vous avez compris ce que je veux dire. De la même manière, les marxistes ont leur propre charte de socialisme, de la justice sociale. Mais s'il s'agit de la vérité morale, il faut qu'elle soit révélée. Et ça, on a appris souvent, parce que ces deux vertus sont contradictoires. Quand je suis occupé à la charité, je viole la justice. Quand je suis occupé à la justice, je viole la charité. D'ailleurs, la raison pour laquelle les sociétés humaines qui ne se basent que sur l'un ou l'autre des idéaux finissent par disparaître. Vous avez été témoin dans votre vie de la destruction de la civilisation socialiste. Mais nous sommes aussi témoins dans notre histoire de l'échec de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire, chaque civilisation qui se choisit une valeur au détriment des autres, cette valeur est authentique. Mais parce que c'est au détriment des autres, elle échoue. C'est clair ? Vous avez compris ce schéma. Et alors, je reviens à notre problème. C'est que Moïse a donné force de loi à la Torah, à l'assemblée de Jacob, à Israël, comme héritier de l'assemblée de Jacob, de la descendance de Jacob. Et vous allez me dire si ce que je vais expliquer maintenant est suffisamment clair. Dans un groupe, l'individu reçoit l'idéal de la collectivité sous forme de commandement à devenir cela. Ça veut dire que la Torah s'adresse à l'individu sous forme d'impératif, de commandement, de mitzvah. Elle concerne la collectivité sous forme de promesse d'identité, de mida. Alors, lorsque la Torah s'adresse à la collectivité d'Israël, la Torah parle au futur. Tandis que lorsqu'elle s'adresse à l'individu, ce futur devient un impératif. Enfin, c'est ça que je comprends. Si vous prenez toutes les mitzvot de la Torah, elles sont dites au futur. Par exemple, dans les 10 commandements, Lo tirtzah. La traduction de Lo tirtzah, c'est pas ne tue pas, mais tu ne tueras pas. Alors, un futur de promesse, ça veut dire si tu es Israël, je te promets, c'est ta bénédiction, tu ne tueras pas. Effectivement, celui qui a atteint cette identité d'Israël ne tue pas. C'est son identité. Mais l'individu reçoit l'ordre de devenir cet Israël. Ça veut dire de faire équivaloir son envergure personnelle à l'idéal d'identité de la collectivité d'Israël. Et c'est pourquoi ce futur qui s'adresse à la collectivité, l'individu l'entend comme un impératif. Ça y est, c'est clair ? Alors je reprends le verset. Torah tziva lanu Moshe. La Torah que Moïse nous a transmise comme loi. C'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. En tant qu'assemblée de Jacob, c'est l'héritage, c'est sa nature. L'individu de l'assemblée de Jacob reçoit cet idéal d'identité sous forme de commandement. Vous avez bien compris ? Je vais peut-être vous donner un complément d'explication là-dessus, mais je voudrais d'abord être sûr que c'est bien clair. La raison pour laquelle la Torah est formulée au futur, c'est qu'elle s'adresse à la collectivité comme une promesse. Et cette promesse est entendue par l'individu de la collectivité comme un commandement à faire équivaloir son être personnel à l'être de la collectivité. La Torah, c'est la Torah d'Israël. Et elle me demande à moi, individu, deviens Israël. Ça veut dire que j'ai le devoir de devenir ce que la collectivité d'Israël est par héritage de privilège de l'identité des patriarches. Et c'est le cas des convertis qui reçoivent, au moment de la conversion, ce privilège de l'héritage de la famille d'Abraham. Et c'est pourquoi on appelle un converti fils d'Abraham, ou une convertie fille de Sarah, ou de Ruth, ou d'un des noms des fondateurs d'Israël. Bon, vous avez compris le problème, ok ? C'est bien clair ? Attends, avant que je... D'abord, je t'ai déjà vu lever le doigt. Et tu sais que je vois. Hein ? Alors, recommence pas encore à me gêner comme ça. Ni toi, ni personne, d'ailleurs. Il vous faut un an pour perdre cette habitude. C'est une question de politesse, purement et simplement, et vous n'arrivez pas à intégrer ça. Bon, alors je reviens au problème. Je vais vous donner un autre exemple. Peut-être une question un peu plus difficile, mais sur le même principe, mais essayez de réagir et de me dire si c'est suffisamment clair. Voilà. Je prends le cas de la prière. Là, je vous ouvrirai une grande parenthèse. Au fond, qu'est-ce que je fais quand je prie ? Je demande à Dieu quelque chose que je n'ai pas encore. Mais est-ce que j'ai le droit de demander à Dieu de changer l'ordre du monde pour me donner ce que le monde ne me donne pas ? c'est comme si je lui demandais de changer sa volonté. C'est Dieu qui gère le monde, et moi je juge que dans mon monde, il me manque ceci ou cela. Et je me mets devant Dieu et je lui demande quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde qu'il m'a fait. Vous avez compris la difficulté ? C'est une question très difficile. Qu'est-ce qui me donne le droit de demander à Dieu de changer sa volonté ? Vous avez compris pourquoi c'est très périlleux la prière. Il faut se mettre à l'abri d'un mérite pour pouvoir demander. Et au fond, je n'obtiendrai que si je mérite ce que j'ai demandé. Alors si je n'obtiens que ce que je mérite, c'est que je le mérite. Et si je le mérite, pourquoi il faut que je le demande ? Vous avez compris la question ? Mais c'est une question pas simple. Hein ? Je vais reprendre la difficulté par étape. Quelle est la formule qui récapitule toutes les formules de prière ? C'est « Yehi Ratzon Milefanecha ». Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu ?« Yehi Ratzon Milefanecha ». Que ce soit une volonté devant toi. Que tu veuilles bien. Et au fond, toute prière, ça consiste à dire que ta volonté se fasse. Mais alors, si c'est ta volonté, sa volonté, pourquoi il faut que je la demande ? Je reprends encore la question. Si dans tous les cas, je n'obtiendrai que ce que je mérite, pourquoi il faut que je le demande ? Puisque je ne l'obtiens que si je le mérite, c'est que je le mérite. Alors encore une fois, pourquoi il faut que je le demande ? Alors la réponse qu'on nous donne à cette question, vous avez bien compris la question ? C'est que y a deux réponses que vous devrez comprendre. D'une part, ce que je mérite, en principe, m'est réservé pour le monde futur, pour le monde à venir. La récompense des mitzvot, le salaire de la vertu, n'est pas pour ce monde-ci. C'est pour le monde à venir. Mais si je juge que j'ai besoin, dans ce monde-ci, une part de ce monde à venir, et c'est ça l'objet de la prière, c'est de demander que Dieu fasse pour moi, dans mon monde, maintenant, le miracle de me donner ce que je mériterai dans le monde à venir, dans la partie de ce dont moi je juge que j'ai besoin actuellement. C'est pourquoi l'initiative de la demande me revient. Après, je vous raconterai comment le Midrash du Talmud montre l'importance de cela. Ça veut dire, je prends l'initiative de provoquer un jugement. Est-ce que je mérite ce que je vais demander ? C'est le sens du mot tefila en hébreu. Quelle est la racine du mot tefila en hébreu ? La racine du mot tefila. Pas plus fort. Moi ? J'entends pas. Formule bien. Tu as dit deux fausses dans le même mot. Alors, parle. Quel est le verbe prier ? Leit palin. Quelle est la racine du verbe ? Tu ne connais pas ?
T'appelles ?
Assez de dire des bêtises. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas, n'inventez pas. Alors, la racine de Leit palin, c'est palol. Au pronominal. Palol, au pronominal, c'est Eit Palel. Que signifie Palol ? Plili, qu'est-ce que ça veut dire ? Non. Plili, ça veut dire. C'est de l'ordre du jugement. C'est pénal. Plili. Et Palol, c'est juger. Et l'Eit Palel, c'est se juger soi-même. Alors la Tefila, c'est l'acte par lequel je me fais juger. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le mot français prière. Le mot français prière, ça veut dire la demande. Mais pour savoir si ce que je vais demander, je le mérite, alors l'acte de la prière, c'est un acte par lequel je prends l'initiative de demander le jugement. Alors quand je prie, je me fais juger. Est-ce que je mérite ce que je vais demander ? Je n'ai pas étudié que c'est l'acte final encore.
Comment ça vient de commencer.
Eh bien, tu vois, j'ai pas fait exprès, c'est d'avoir le veille tomato. Alors, ça vous apprendrez dans l'étude de la tefila. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui me donne le droit de demander ? Ce qui me donne le droit de demander, c'est d'abord le privilège que je suis descendant des patriarches. C'est pourquoi je prie au Dieu des patriarches. Comment commence la tefila ? Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. C'est-à-dire, si je suis vraiment fils d'Abraham, Isaac et de Jacob, j'ai le droit de demander ce que je vais avoir demandé. Parce que ce que j'ai à demander, j'en ai besoin, que parce que je suis fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand vous étudierez qu'est-ce qu'on demande dans la tfila, vous comprendrez qu'effectivement, ce sont des biens, des bénédictions, des privilèges qui sont nécessaires à Israël pour jouer son rôle d'Israël. C'est ça que j'ai le droit de demander. Et alors je prends le deuxième aspect, dans la mesure où je le mérite à l'échelle individuelle, cela me sera donné. Alors je prends ma question. Et pourquoi il faut que je le demande, si je le mérite? Eh bien, ce jugement va mettre en évidence si je suis celui à qui cette promesse a été faite. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas sûr que je sois Israël, je n'ai pas droit aux bénédictions d'Israël. Alors, si je réclame les bénédictions d'Israël, je suis jugé pour savoir si j'équivaut au mérite d'Israël. Et vous voyez donc que l'entreprise de la prière est une entreprise extrêmement périlleuse. On se fait juger. Si on mérite, on reçoit. Si on mérite pas, on reçoit pas. Mais le fait d'être jugé, c'est très périlleux. C'est pourquoi on se met à l'abri de la collectivité. La prière est collective, la prière d'Israël. Bien sûr, l'individu a le droit à la prière individuelle, sans aucun rite, sans aucune règle, dans la mesure où il juge que c'est quelque chose auquel il a un manque tel qu'il a droit de prier, c'est le privilège de la prière individuelle. Et là, il n'y a aucune règle. Mais la prière d'Israël est faite par la collectivité d'Israël. C'est pourquoi nous prions toujours en minyan. C'est bien qu'on se met à l'abri de la collectivité pour pouvoir demander pour moi ce qui revient à la collectivité. Et alors, c'est vrai comme c'est parallèle. Au fond, ça m'est promis, mais je ne l'obtiens que si je suis vraiment celui à qui ça a été promis. Je demande alors que je ne sais pas encore si je suis suffisamment Israël pour l'obtenir. D'où le jugement. Les promesses ont été faites à Jacob, mais elles concernent Israël. Dès que Jacob devient Israël, il l'obtient. Donc le commandement donné à Jacob, c'est de devenir Israël. Mais les bénédictions sont promises à Israël. Le futur, c'est pour Israël. Le commandement, c'est pour Jacob. C'est clair? Alors je reprends le verset, vous allez mieux le comprendre encore. Torah, tzivalanu Moshe, tzivalanu Moshe, Morasha kilat Yaakov. Qu'est-ce que Moïse a ordonné à Jacob? C'est de devenir Israël. Alors l'individu reçoit l'identité Israël sous forme de commandement. La collectivité la reçoit sous forme de promesse de bénédiction. Alors ça vous expliquera pourquoi tous les commandements sont au futur et pas à l'impératif. Pourquoi on comprend comme impératif une forme qui est du futur. On est tellement habitué, on croit que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il n'y a pas écrit « Al Tirtzach », il y a écrit « Lo Tirtzach ». C'est bien clair? Dans cet exemple, vous avez certains commandements qui sont dans une forme infinitive qui a le sens du futur. Par exemple, « Kaved et Abicha et Imecha ». La forme est infinitive, mais elle a le sens du futur. Bien, alors je referme toute cette parenthèse. Je reviens donc à ma question. C'est que il y a une destination d'Israël qui a à la fois la tâche d'Ésaü et la tâche de Jacob. Là, vous commencez à étudier quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Et j'espère qu'on aura le temps jusqu'à la fin de l'année pour arriver plus loin. Ça veut dire que les deux enfants d'Isaac devaient résoudre deux problèmes. L'un, le problème de la vie matérielle, l'autre, le problème de la vie spirituelle. Finalement, on s'aperçoit que la seule des solutions possibles, et c'est Rivka qui l'a décidé, c'est que Jacob, qui a déjà sa propre bénédiction, la bénédiction d'Abraham qui est réservée à celui qui ne prend femme que dans le pays de Canaan, qui ne prend pas femme dans le pays de Canaan, qui ne prend femme que dans la famille d'Abraham. Vous rappelez que c'est pour ça qu'ils avaient été disqualifiés. Cette bénédiction va à Jacob comme Jacob. Mais en plus, il reçoit la bénédiction qui était destinée à Ésaü et qui était qui concerne l'héritage des Rets Israël. Petite parenthèse pour vous faire comprendre l'importance du problème, ce n'est pas pour rien que la civilisation qui va sortir d'Ésaü nous a disputé la terre d'Israël. Finalement, vous avez déjà appris, c'est la civilisation romaine qui sort d'Ésaü, et c'est à Rome que est apparu le christianisme qui réclame la terre d'Israël comme sa terre sainte. Vous voyez que c'est la réclamation d'héritage d'Ésaü. Mais par le fait que c'est Jacob qui devient Israël, alors Jacob a la vocation d'hériter Israël, et en cela, la descendance de Jacob, c'est les enfants de Léa, Judas à la tête, et la vocation de la galoute, Jacob, c'est la descendance de Rachel avec Yosef à la tête. Alors je reviens à la question que j'avais posée tout au début, ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé, c'est que il y a une vocation à Jacob qui est la vocation de la relation à l'universel humain. La matrice d'identité à ce sujet, à ce niveau, c'est Rachel. Et on s'aperçoit que Jacob, comme Jacob, préfère être le berger des troupeaux de Laban. Il aime Rachel. C'est pourquoi il reste en exil jusqu'à ce qu'il soit obligé de revenir en Eretz Israël. Et cette vocation, semble-t-il, lui est imposée malgré lui. Lui aurait préféré Rachel que cela. Et il est obligé d'hériter de Léa et donc d'Eretz Israël. Et ça vous fait comprendre la tendance du peuple juif, surtout de l'expérience de l'exil. Il semble qu'Eretz Israël lui soit imposé. Alors que les chrétiens ne demanderaient pas mieux que ce soit leur terre sainte. Vous avez compris la difficulté du problème.